Le bonheur amoureux, les émotions érotiques après des années de vie commune, les couples déclarent souvent avoir perdu la flamme. La majorité des hommes et des femmes seraient insatisfaits de leur vie amoureuse et sexuelle, la routine, la vie de famille, qui prennent le dessus avec la morosité qui s'installe dans la vie conjugale. Et pourtant, heureusement, selon les sexologues, ceci n'est pas une fatalité et le bonheur peut se conjuguer avec amour et sexualité. C'est le dossier de l'émission dans un instant avec mes invités, vos questions et vos témoignages sur franceinter.fr. Et sur le mot-clé, l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour.
À la une de la science, aujourd'hui, la présence sous la surface de Mars d'importants dépôts de glace.
Oui, des falaises de glace de plusieurs kilomètres de long repérées par une sonde de la NASA. Accessibles facilement, elles ouvrent de nouvelles perspectives d'exploration et de compréhension de Mars. On en discute avec nos invités dans un instant.
Fanny Boyon réalise cette tête au carré qui a été préparée aujourd'hui par Lucie Sarfati avec Thomas Kalevitch.
La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Pour parler des lois du bonheur amoureux et sexuel, ce sera donc le dossier dans un instant avec mes invités, les sexologues Julie Duchemin et Pascal de Sutter. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Julie Duchemin, les Français et leurs partenaires sexuels, c'est pas la joie ?
Et non, la routine et la misère sexuelle fait partie en fait de bien des couples aujourd'hui, de bien du quotidien et des célibataires aussi, ouais, qui se plaignent en tout cas dans les cabinets des sexologues, mais pas seulement. Il y a ceux qui ne se plaignent pas mais qui ne sont pas pour autant satisfaits. Et donc c'est pourquoi nous avons écrit ce livre avec Pascal de Sutter.
Alors justement Pascal de Sutter, il existerait des lois pour maintenir le bonheur amoureux et sexuel au sein du couple ?
Tout à fait, ce qui est fascinant c'est quand même la majorité des humains aspirent à une certaine satisfaction sur le plan amoureux ou sur le plan affectif et sur le plan sexuel, et pourtant ce n'est pas le cas. Et nous posons l'hypothèse que c'est parce qu'ils ne comprennent pas les lois du fonctionnement amoureux et sexuel.
Et il y a 12 lois en l'occurrence que nous allons explorer avec vous dans un instant.
Tout à
avec
fait.
Les réponses aux questions des messages des auditeurs qui nous rejoignent. Et les glaces qui abondent à la surface de Mars, elles seraient plus faciles à atteindre que nous ne le pensions. De nouvelles images le prouvent et c'est aujourd'hui à la une de la science.
Le problème, c'est l'eau. J'ai réussi à créer 126 mètres carrés de terre utilisable. Mais chaque mètre cube de terre nécessite 40 litres d'eau pour être cultivable. Il faut donc que je produise beaucoup plus d'eau.
Voilà, c'est un extrait du film Seul sur Mars avec Matt Damon pour parler donc de ces images de la NASA dévoilées ce week-end et qui montrent de grandes falaises de glace et de poussière gelée à la surface de la planète rouge, d'importantes quantités d'eau accessibles facilement et qui pourraient nous aider à comprendre l'histoire géologique de Mars. On en parle avec nos invités, Axel.
Oui Mathieu, pour faire le tour des glaces, nous sommes avec François Cottard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géomorphologue pour le CNRS à l'Université d'Orsay, spécialiste des milieux froids, et Philippe Hénarejos, rédacteur en chef du magazine Ciel et Espace. Bonjour.
Bonjour.
François Cottard, de l'eau liquide et solide, on sait que Mars en possède. Pourquoi ces falaises-là, d'une, nous avaient échappé et pourquoi elles sont importantes ?
Alors, c'est une publication en effet très intéressante. Pour la première fois, on détecte de la glace d'eau à la surface de la planète Mars, aux latitudes, de 55-50 degrés sud, alors qu'avant, on savait qu'il y avait de la glace au pôle, au niveau des calottes polaires, et vers les latitudes de 70 degrés, avec la mission Phoenix, la mission américaine qui s'était posée, qui avait gratté un peu le sol.
Et la nouveauté, c'est quoi ? C'est qu'on la voit directement sur les images, c'est ça ?
Alors, c'est une détection qui s'est faite depuis la sonde Mars Reconnaissance Orbiter, un orbiteur américain, avec à son bord une caméra haute résolution, avec des images à haute résolution, et un spectromètre qui permet de détecter à distance la composition minéralogique du sol de Mars. Donc ils ont pu combiner les images haute résolution dans ces régions, autour de 55 degrés sud, et un spectromètre qui a détecté de la glace d'eau dans ces régions.
Comment il faut l'imaginer cette glace ? Un peu comme celle de nos glaciers, un petit peu noire, remplie de poussière, c'est ça ?
Alors, la recherche est un peu comme Hercule Poirot. Hein.
Ouais.
C'est un travail de détective. Il y a d'abord les observables, les faits.
Ouais.
Et ensuite, on passe aux interprétations. Donc, l'article parle en effet d'une détection, tout ce qu'il y a de plus sûr, d'une détection de la glace. Les observables, ce sont des régions où on observe des dépressions kilométriques d'une centaine de mètres de profondeur. Et on observe de la glace sur ces escarpements. Alors ensuite, on passe à l'interprétation.
C'est pour ça que j'ai dit imaginer.
Voilà. Donc à l'interprétation, ce que proposent les auteurs, c'est la présence donc de glace qui serait soit de la glace enfouie sous forme d'anciens glaciers, qui seraient encore présents près de la surface, ou alors de dépôts stratifiés, un peu comme un millefeuille de couches de glace et de sable qui seraient exposés aujourd'hui et qu'on pourrait donc détecter facilement donc grâce aux instruments à bord de cet orbiteur.
Et Philippe, pour y répondre, il faut aller chercher un petit glaçon, c'est ça l'idée ?
Il faudrait, oui, bah, l'idée idéale, ce serait effectivement d'aller en chercher un morceau. Maintenant, on peut déjà commencer à travailler, j'imagine, avec les vues orbitales. On le voit là, puisque, si vous voulez, vous avez une espèce d'escarpement. On parle de falaise, mais enfin, c'est une pente assez raide, on va dire. C'est une pente assez raide sur laquelle on voit les couches qui affleurent. Ça fait un peu comme un millefeuille, une tranchée napolitaine, tout ça. Donc, on peut déjà, depuis l'orbite, avoir une idée de ce qu'on voit. C'est-à-dire qu'on voit un empilement de choses. Donc ça peut nous indiquer, quand on parle des hypothèses ou des interprétations, on peut déjà avoir une idée que ça rend compte des changements climatiques qui ont eu lieu tout au long de l'histoire de Mars. Et peut-être qu'en fonction de l'épaisseur de chacune de ces couches, on va pouvoir le dater de manière relative. Évidemment, avoir un morceau, un petit glaçon, comme vous disiez tout à l'heure, ça serait l'occasion de faire peut-être des carottages comme on fait dans nos pôles terrestres.
Sauf que nos robots sont loin, au fond, du site.
Les robots actuels sont loin de ces endroits-là. Les robots qui seraient éventuellement capables d'aller sur ces escarpements en rappel, par exemple, avec une corde, n'existent pas. Donc, c'est des missions qui pourraient tout à fait être intéressantes scientifiquement, mais qu'il faut concevoir, donc on n'y est pas encore.
François Cottard, on pourrait réellement lire l'histoire de Mars comme on le fait avec les glaces de l'Antarctique si on arrivait à atteindre ces falaises, par exemple ?
Oui, tout à fait. En fait, ce que font les géologues sur Terre, c'est qu'en fait, ils se précipitent vers les escarpements, les falaises, pour essayer d'étudier les couches géologiques. Et plus on descend, grosso modo, plus on remonte dans le temps. Et le gros problème de la planète Mars, c'est qu'en fait, on n'a pas forcément une idée très précise de ce qui s'est passé autrefois. Et le seul moyen, c'est ce que font les géologues donc planétaires, c'est qu'ils essayent de regarder les escarpements pour essayer de remonter dans le temps. Et là, on a la chance d'avoir un escarpement d'une centaine de mètres de profondeur, à des latitudes de 50 degrés, et de pouvoir reconstituer l'histoire climatique et géologique de cette planète. Alors, ce qui était très intéressant, c'est qu'à ces latitudes de 50 degrés, on avait montré, moi-même et quelques collègues, il y a une trentaine d'années déjà, que par les latitudes de 40-45 degrés nord et sud, la planète Mars comporte un sol gelé en permanence, qu'on appelle un pergélisol, un permafrost. C'est-à-dire que les températures sont constamment en dessous de 0 degré. Donc c'est ce qu'on observe actuellement au niveau de l'Arctique canadien, en Sibérie, on a un sol gelé avec de la glace. Et là, ce que l'on voit dans cette publication, c'est qu'on a des images montrant des dépressions, des formations qui ressemblent tout à fait à s'y méprendre à ce que l'on peut voir en Sibérie d'ailleurs, quand on fait du terrain avec mon collègue Antoine Séjourné, on a publié il y a quelques années la formation de dépressions en Sibérie due à la présence d'un sol gelé qui est en train de se déstabiliser avec de la glace qui est en train de fondre et qui ressemble tout à fait à s'y méprendre à ce que l'on voit sur Mars. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que dans cette publication, les Américains montrent qu'à 55 degrés sud, on a de la glace et on observe ces genres de dépressions aux latitudes nord aussi. Exactement pareil.
Vous parlez du pergélisol sur Terre en Sibérie. On trouve dedans des virus et des bactéries. Est-ce qu'on peut imaginer que c'est un endroit où on aimerait aller chercher des traces de vie sur Mars, par exemple ?
Oui, en Sibérie, en effet, on parle de bactéries et de virus à l'état congelé qui pourraient à tout moment reprendre vie. Enfin, bon, c'est une grande histoire. Et sur Mars, c'est vrai qu'il y a deux écoles, je dirais, pour la recherche de la vie, des embryons de vie, ce qu'on appelle l'exobiologie. Sur Mars, il y a soit les hautes latitudes, moyenne et haute latitude, aller dans le pergélisol, dans le permafrost subaffleurant, donc c'est la publication d'aujourd'hui. Donc on recherche là où c'est le plus proche de la surface de la glace et on essaye d'étudier cette glace et de retrouver des embryons de vie qui seraient à l'état gelé à quelques mètres de profondeur à l'abri des rayonnements ultraviolets, notamment nocifs. Ou alors on va dans des régions plutôt équatoriales où là on a des températures un peu plus clémentes et c'est ce que proposent les agences spatiale actuellement.
Philippe, est-ce qu'elle est ancienne, cette glace martienne ?
Eh bien, je dirais, celle qui est près de la surface, non. enfin ancienne géologiquement, puisque ce qui est au-dessus de la couche est récent. Mmh. Et à mesure qu'on va descendre, on va descendre vers des temps plus anciens. Là, il faut faire appel à des spécialistes pour dater justement ça, alors de manière relative, mais aussi absolue. Mmh. Et là, on n'y est pas encore. Donc a priori, tout ce qui est en surface est assez récent, mais on parle peut-être de millions d'années quand même. Hein. C'est pas hier.
Allez, une dernière question très vite.
Oui, Philippe, pour terminer, les auteurs parlent aussi d'un potentiel réservoir d'eau pour des missions humaines. C'est vrai que c'est placé à un endroit accessible.
Oui, mais là, c'est un peu de la com.
Ah, c'est pour vendre le papier.
Je crois, il n'était pas obligé de dire qu'un astronaute du futur pourrait aller avec la pelle et son seau juste pour prendre de l'eau. Parce que le problème de... Les astronautes n'auront pas de... Si un jour des astronautes vont sur Mars, ils n'auront pas de problème à trouver de l'eau sur Mars. On le sait, enfin, je veux dire, il y en a partout. Donc, c'est une touche... Je crois que ce qui aurait été plus intéressant, il aurait été plus intéressant d'insister sur le fait que, justement, là, on a un livre ouvert sur l'histoire géologique de Mars. Ça, c'est vrai. Ça, c'est l'apport scientifique de cette publication.
Donc, ça reste intéressant comme falaise.
Oui.
Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux. Il y a une très belle image, hein, de ces glaces.
Oui, on l'a publiée sur notre site Ciel Espace, où notre journaliste Guillaume Lingin a écrit l'article.
Absolument, une vraie peinture, hein, c'est absolument magnifique. Oui. Merci beaucoup à tous les deux, François Cottard et Philippe Pénarejos. Et puis Axel, on se retrouve demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, l'allaitement diminuerait les risques de diabète de type 2 chez les mères. C'est ce qu'indique une étude publiée dans la revue américaine JAMA, qui porte sur plus de 1200 femmes âgées de 18 à 30 ans. Elle révèle donc que les mères qui allaitaient leur bébé pendant au moins 6 mois réduisent de 47% leur risque de développer un diabète. Ces résultats sont valables pour toutes les femmes, quelle que soit leur ethnie, en particulier chez les Américaines noires, pour lesquelles le risque est le plus élevé. Les chercheurs ne comprennent pas encore les raisons du bienfait de l'allaitement, mais espèrent que cette découverte aura des impacts sur les politique sociale et pourra protéger les quelques 27 millions d'Américaines considérées comme prédiabétiques. La peste noire, propagée majoritairement par les humains et non par les rats, responsable de millions de morts dès le XIVe siècle et jusqu'au XIXe, les spécialistes ont toujours accusé les rats de sa propagation massive en Europe et en Asie. Plusieurs constatations poussent aujourd'hui certains chercheurs à explorer de nouvelles pistes. Publiée dans la revue PNAS, une étude décrit le recours à 3 modèles mathématiques pour déterminer le mode de transmission le plus probable, et c'est celui basé sur une transmission via des parasites humains, comme les poux ou les puces, qui colleraient le mieux pour les grandes vagues de peste. Cette étude présente plusieurs limites, mais elle encourage le développement d'autres recherches pour faire toute la lumière sur ces périodes sombres. Et puis la marche de millions de bébés crabes, une vidéo postée la semaine dernière sur Twitter montre la migration annuelle de millions de ces crustacés sur l'île Christmas, située dans l'océan Indien. Chaque année, avec l'arrivée des moussons, après avoir pondu ses œufs sur la plage, la femelle les plonge dans la mer avant de retourner en forêt. Arrivés à maturité, les bébés crabes débutent alors une longue marche vers leurs parents, montant les uns sur les autres, évitant les obstacles et les prédateurs. Ils avancent telle une vague rose vers l'intérieur des terres. Un spectacle extraordinaire que vous pouvez retrouver en vidéo sur le Facebook de La Tête au Carré. Allez, les clés du bonheur amoureux et sexuel dans un instant.
Tu seras viril, mon kid, je ne veux voir aucune larme glisser sur cette gueule héroïque et ce corps tout sculpté pour atteindre des sommets fantastiques que seule une rêverie pourrait surpasser. Tu seras viril, mon kid, je ne veux voir aucune once féminine, ni des airs, ni des gestes qui veulent dire, et je sais si ce sont tout de même les pires à venir, te castrer pour quelques vocalistes. Tu seras viril, mon kid, loin de toi ces finesses tactiques de ces femmes d'origine qui féminisent, groguisent sous prétexte d'être le messie fidèle de ce fier modèle archaïque. Tu seras viril, mon kid, tu tiendras dans tes mains l'héritage iconique d'Apollon, et comme tous les garçons, tu courras de ballon en champion et deviendras mon petit héros historique. Tu seras viril, mon kid, je veux voir ton teint pâle se noircir de bagarre et forger ton mental pour qu'aucune de ces dames te dirige vers de contrées roses néfastes pour de glorieux gaillards. Tu seras viril, mon kid, tu hisseras ta puissance masculine pour contrer cette essence sensible que ta mère nous balance en famille. Elle fatigue ton invulnérable Achille.
tu seras viril, mon kid. Tu compteras tes billets d'abondance qui fleurissent sous tes pieds, que tu ne croiseras jamais. Tu cracheras sans manière, en tous sens, des fils à fer et dopé de chair, de nerfs, protéines. Et tu seras viril, mon kid. Tu brilleras par ta force physique, ton allure dominante, ta posture de caïd et ton sexe triomphant pour mépriser les faibles. Tu jouiras de ta rude étincelle.
Virilité abusive. Virilité abusive. Virilité abusive.
Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prône pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prône pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent.
Il s'appelle Eddy de Préto et c'est Kid.
La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Nous allons vous révéler les 12 lois du bonheur amoureux et sexuel et c'est un livre qui paraît chez Robert Laffont et que vous signez, Julie Duchemin et Pascal de Sutter. Vous êtes tous les deux sexologues et vous allez aussi répondre aux questions des auditeurs et peut-être aux témoignages. Ils nous rejoignent sur le site de l'émission. Alors comment va la vie sexuelle des Français et d'ailleurs des Belges, on pourrait dire aussi, hein, puisque vous êtes Belges tous les deux. Et d'abord j'aimerais vous demander quelles sont les méthodes exactement pour le savoir. Parce que vous êtes sexologue, donc vous rencontrez les gens évidemment dans votre cabinet, sauf qu'il y a des biais pour savoir comment va vraiment la vie sexuelle parce que c'est plutôt les gens qui ont des problèmes a priori qui viennent vous voir. Donc comment est-ce qu'on a une sorte de photographie de cette vie sexuelle? Est-ce qu'il y a des états des lieux qui sont faits, Julie Duchemin?
Régulièrement, il y a des sondages qui sont établis, effectivement, et qui nous permettent de savoir un petit peu comment se sentent les gens dans leur vie amoureuse et sexuelle. Mais il faut savoir que ces sondages sont eux aussi biaisés, puisque dans la réalité, tout comme quand on vous demande si vous mangez bien 5 fruits et légumes par jour, on va répondre en général ce qu'on aimerait atteindre comme état, c'est-à-dire on va dire oui, alors que dans la réalité, souvent non. Et dans la sexualité, c'est d'autant plus vrai que ça touche vraiment à quelque chose de très intime, et que même si cette enquête est anonyme, on a tendance à répondre à un idéal, c'est-à-dire par exemple de faire l'amour 2 fois par semaine, alors que dans la réalité, c'est plutôt une fois, voire une fois tous les 10 jours qu'est la réalité des couples qui encore pratiquent, parce qu'il y en a aussi également qui n'ont pas de pratique sexuelle. Donc oui, on fait des sondages, il y a des études qui sont menées régulièrement en France, en Belgique, ou de manière même parfois plus internationale, et on s'est basé évidemment sur ces études, mais également, et c'est le cas principal, sur notre pratique, puisque Pascal de Sutter, ça fait vraiment maintenant des années qu'il reçoit en consultation, moi plusieurs années aussi. Nous enseignons tous les deux à l'Université catholique de Louvain, où nous avons également là des mémorantes, des doctorantes qui étudient sur différents sujets le bien-être amoureux et sexuel, et donc de tout cela, nous avons fait notre livre.
Pascal de Sutter, je me souviens de cette enquête de Nathalie Bajossé, de Michel Bozon. On en est parlé à l'époque où elle était sortie en 2008, donc ça fait déjà très longtemps. Il n'y a rien de nouveau depuis, finalement?
En fait, il y a eu des enquêtes qui ont été menées. Pénocillage, c'était une grande enquête qu'ils ont menée auprès des Français. Maintenant, il y a toujours des limites, comme vient de le dire ma collègue, par rapport à ces enquêtes, ce qui fait que les véritables comportements sexuels des Français, ou d'ailleurs d'autres populations, on les connaît très peu. Hein. C'est un petit peu comme Mars, on peut voir les choses de loin, mais vraiment, savoir ce que les gens font dans leur chambre, c'est très difficile, parce qu'on demande ce que les gens... On leur pose la question, et les gens, ils disent plus ou moins la vérité, et d'ailleurs plutôt parfois moins que plus.
Et donc, le cabinet est quand même un bon indicateur pour vous?
Alors, l'avantage, quand on travaille avec des patients, avec des clients, c'est qu'on a quand même... quelque chose qui est davantage sincère, qui est sans filtre, parce que les gens sont là pour être aidés et normalement, la plupart d'entre eux quand même disent certaines vérités qui ne sont pas toujours des vérités agréables. Maintenant, on est biaisé aussi parce qu'on a forcément les gens qui ne vont pas bien, les gens qui sont heureux, épanouis, ne sont pas les premiers qui consultent, évidemment.
Julie Duchemin, vous avez employé un mot effrayant tout à l'heure, vous avez évoqué la misère sexuelle. C'est affreux comme terme, je trouve. Mais c'est vraiment ce que vous constatez, vous,
au quotidien? C'est Pascal de Sutter qui m'a appris ce mot.
Oui, mais vous l'avez répété tout à l'heure.
Je l'ai répété, je suis une bonne élève. Non, c'est vrai que justement, je l'assume aussi que c'est la réalité de ce qu'on peut entendre. Et d'ailleurs là, je dirais même dans les conversations entre amis, en connaissances, quand on libère un petit peu ce sujet, en dehors des blagues grivoises ou des anecdotes faciles à raconter, quand on va vraiment sur le fond de ses proches et faites peut-être le test dans votre entourage aussi, eh bien la plupart du temps, il y a des choses qui ressortent, qui marquent une vraie souffrance, que ce soit des relations par exemple extra-conjugales qui amènent énormément de souffrance, un manque de désir qui provoque vraiment des frustrations importantes, des troubles érectiles qui concernent vraiment, maintenant c'est devenu le problème numéro un chez les hommes, alors qu'avant c'était plutôt éjaculer trop vite, donc qui est un problème, mais en soi on a toujours du plaisir, on arrive à éjaculer. Le manque d'érection est vraiment pour un homme en général un drame dans sa vie.
Et même à l'heure du Viagra finalement, ça reste toujours un problème aujourd'hui, parce qu'on a l'impression qu'on a
ça ne résout pas tous les problèmes.
Et puis beaucoup ont peur aussi de prendre cette fameuse pilule. Moi, j'ai encore vraiment beaucoup de réticences d'hommes qui disent, ou de partenaires qui ont peur des effets secondaires, ou qui ont peur de la dépendance, ou enfin voilà, des peurs qu'il faut pouvoir écouter et solutionner.
Juste pour avoir une idée, il faut quand même savoir qu'on considère qu'à peu près la moitié des femmes a un véritable problème de désir sexuel. On parle de femmes adultes, actives normalement sexuellement, eh bien la moitié d'entre elles, c'est devenu une corvée de faire l'amour. Donc ça, c'est la réalité.
C'est embêtant.
Donc, c'est embêtant. Alors quand les gens, évidemment, entre amis, etc., ils vont plutôt se vanter, dire « Ah, tout va bien chez moi, c'est super, c'est magnifique. » Mais dans la réalité des couples, eh bien, il y a plus de gens qui sont insatisfaits de leur fonctionnement sexuel et amoureux, parce que c'est important aussi, de leur relation amoureuse, plutôt que de gens qui sont satisfaits. Donc on a effectivement, globalement, plus de gens qui vivent une situation qui n'est quand même pas très très agréable. Alors que s'ils respectent certains principes, justement, dont on parle dans ce livre, eh bien, ça peut aller beaucoup mieux.
Alors justement, vous arrivez tels les chevaliers de l'amour, avec ces lois universelles, elles sont au nombre de 12. Alors je ne sais pas si c'est votre humour belge, mais vous faites une sorte de parallèle avec les lois universelles de la gravitation. Hein. C'est quasiment ça, c'est les lois de la nature qu'on pourrait transposer à l'amour. Donc c'est évidemment beaucoup plus subjectif que ça, mais vous faites des parallèles, justement, entre les lois de la nature et les lois de l'amour. Et vous avez quoi ? Édicté vous-même ces 12 lois ? C'est à la lumière de tout ce que vous avez de la littérature scientifique, comment vous avez procédé ?
Eh bien justement, en fait, on a utilisé le terme loi justement en comparaison aux lois scientifiques, aux lois de la physique, aux lois de la, par exemple, la loi de l'attraction, qui sont des éléments qui existent et on ne peut juste les constater. On ne peut pas dire « je ne suis pas d'accord avec la loi de l'attraction universelle ». Elle est là, elle est présente. On ne peut pas dire « je ne suis pas d'accord avec la loi d'Archimède ». C'est une réalité. Eh bien, dans le fonctionnement psychologique, et là, en l'occurrence, sur le fonctionnement sexuel, il existe comme ça des principes fondamentaux, universels, c'est pour ça qu'on utilise ce mot universel, valable pour les Papous de Nouvelle-Guinée, comme valable pour les Inuits du Grand Nord canadien.
Ah oui, c'est valable pour tout le monde, et quels que soient les âges, ça fonctionne.
Quels que soient les âges, quelle que soit la race, la culture, il y a des principes fondamentaux, parce que l'être humain fonctionne comme ça, et pas autrement. Et ça, c'est ça qui est intéressant, c'est à partir du moment où on comprend ça et qu'on l'accepte, on peut à ce moment-là s'adapter à cette réalité.
Alors, exemple, Julie Duchemin, la loi de l'impermanence. Ça, c'est très important. Hein, c'est même quasiment central au cœur, justement, de vos travaux. Tout change en permanence, évidemment. Hein, la vie n'est pas un long fleuve tranquille.
Voilà, c'est la première loi, parce qu'effectivement, d'elle découle beaucoup de choses. C'est d'accepter déjà que tout est impermanent, sauf l'impermanence. Donc vraiment, dans une vie amoureuse, eh bien, on traverse des moments, justement, de doute, de joie, de célibat, de rencontre. Eh bien, ça ne va pas durer. Et nous disons à quel point c'est le cas, hein, qui aujourd'hui, dans les auditeurs, va dire « Ah non, moi j'ai toujours eu la même vie qui n'a jamais changé ». Non, le désir a évolué, est parfois parti, revenu. Donc tout est positif aussi. La bonne nouvelle de l'impermanence, c'est que du coup, quand on a une passe difficile, sentimentalement ou sexuellement, ça ne va pas durer non plus. Mais attention, quand on vit quelque chose qui fonctionne très bien, comment l'entretenir, comment le faire vivre aussi, parce que ça non plus, on ne peut pas s'accrocher sur notre acquis, qui est notre loi. Donc oui, la loi de l'impermanence, qui est vraie dans la nature. Hein. Regardons la nature en ce moment, elle a l'air morte, les arbres ont l'air non vivants. Et évidemment, l'impermanence fait que le printemps va revenir et tout évolue sans cesse comme les saisons.
Et heureusement, on n'a pas à attendre le printemps non plus du côté de l'humain pour pouvoir vivre heureux. Et alors donc, c'est l'idée d'accepter avec sérénité cet état de fait, finalement, Pascal de Sutter.
Figer les choses, c'est intéressant parce que ici à Paris, parfois sur Saint-Pont, on voit des cadenas comme ça de gens qui voudraient figer les choses, s'enfermer, se cadenasser dans une relation amoureuse parce qu'ils sont très amoureux à ce moment-là. Ils voudraient que ça ne bouge pas, que ça ne change pas. Or, évidemment, ça change. Et ça ne veut pas dire qu'on doit en avoir peur, qu'on doit dire « Ouh là là, ça, on ne va plus être amoureux un jour, ça va être la catastrophe ». Non, c'est accompagner le changement. À partir du moment où on sait que les choses sont d'impermanence et qu'on accompagne le changement, on peut être beaucoup plus heureux sur le plan amoureux sexuel. Plutôt que vouloir figer les choses, vouloir les bloquer, vouloir les maintenir dans la glace en quelque sorte, eh bien, il faut accepter que les choses bougent.
Écoutons justement Eyes Wide Shut, Stanley Kubrick en 1999 avec le couple Nicole Kidman et Tom Cruise.
C'était qui le type avec qui tu dansais ?
Un vieil ami des Ziegler.
Qu'est-ce qu'il voulait ?
Des
Il voulait juste baiser ma femme.
Tout à fait.
Je trouve ça compréhensible. Parce que tu es une très belle femme.
Parce que je suis une très belle femme, la seule raison qui pousse un homme à s'intéresser à moi, c'est qu'il a envie de me baiser.
Je crois qu'on sait tous les deux à quoi nous en tenir sur les hommes.
Oh. Les mecs, ils voient absolument qu'ils baissent tout ce qui bouge. Mais pour les femmes, pour elles, on ne pense plus que sécurité, engagement, toutes ces conneries, quoi.
C'est caricatural comme point de vue ce que tu dis, mais oui, il y a un peu de ça.
Des millions d'années d'évolution, pour ça. Si vous, les hommes, vous saviez ce que nous...
Écoute, t'as envie qu'on se dispute et par-dessus le marché, tu essaies de me rendre fou de jalousie.
Mais toi, la jalousie, ce n'est pas ton genre.
Non, c'est vrai.
Et pourquoi tu n'as jamais été jaloux à cause de moi ?
Peut-être parce que tu es ma femme. Peut-être parce que tu es la mère de mon enfant et que je sais que tu es incapable de me tromper.
Tu es vraiment... Vraiment sûr de toi, n'est-ce pas?
Non, je suis sûr de toi.
Voilà, elle va pas s'en remettre. Hein. Elle va rire pendant très très longtemps dans Eyes Wide Shut, Nicole Kidman. Là, finalement, on était dans la loi de l'impermanence. On a glissé vers la loi de l'acquis, hein, Pascal
Tout à fait.
De Sutter. Hein.
La loi de l'acquis.
C'est le petit cadenas. Hein.
Et là aussi, ça se base sur une simple observation de la nature. C'est qu'à partir du moment où... Un prédateur a capturé une proie, ben la proie elle est acquise, il chasse plus. Il a son repas, il le dévore, il ne cherche plus à chasser. Et de même dans une relation amoureuse, à partir du moment où notre partenaire nous est complètement acquis ou acquise, on sait qu'il est là. Effectivement, on ne fait plus beaucoup d'efforts pour encore séduire, charmer, etc.
Grave erreur
évidemment. Mais on fonctionne tous un peu comme ça. Et pour prendre encore un exemple encore plus trivial, beaucoup d'hommes ils rêvent d'une belle voiture tant qu'elle est dans le showroom, puis quand elle est dans leur garage, il entre tiennent plus, il la soigne plus, il la nettoie plus, il s'étonne après qu'elle ne fonctionne plus très bien, ou bien qu'effectivement le voisin est prêt à partir avec la voiture.
On appréciera la métaphore avec la voiture. Julie Duchemin, effectivement, vous citez des études de cas hein, dans ce livre. Il y a Nolwenn que vous appelez la diva du dancing. C'est ce destin d'une jeune femme qui a eu beaucoup de succès et qui tout d'un coup décide de se marier et c'est un peu la fin finalement de sa joie de vivre.
De sa liberté, ouais. Voilà, elle connaissait le monde de la nuit, le monde de la séduction, du désir qui ne doit pas être jugée. Voilà, elle trouvait son énergie là-dedans. Et puis, effectivement, elle a envie aussi de sécurité, de stabilité, de construire. Il y a une loi plus loin qui en parle, les paradoxes, justement. Ben Nolwenn est empreinte à ces fameux paradoxes. Et du coup, elle se sent enfermée. Elle perd son désir, finalement, en elle et commence le début des problèmes. Et en même temps, dans chaque cas, parce que chaque loi est illustrée par un cas dans ce livre, qui donne plusieurs étapes d'une personne ou d'un couple et qui on voit parfois ça descend très bas on va dire dans la situation et puis ça peut vraiment se solutionner.
Il y a le happy end aussi hein.
Voilà, il y a pas toujours un happy end mais
là,
il y en a
en l'occurrence il y en a un pour Nolwenn.
Ouais.
On vous retrouve dans un instant pour évoquer ces 12 lois universelles du bonheur amoureux et sexuel et ce sera juste après Kerenan et Midi dans le salon de la Duchesse et c'est sur France Inter.
Midi dans le salon de la Duchesse. Tout ce qui s'aime encore.
carré, c'était Kerenan.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Pourquoi tu veux épouser Cathy, toi, le grand spécialiste français du libertinage?
Mais la réponse est encore plus simple, Marc. Parce que je l'aime.
Et tu trouves que c'est une raison suffisante?
On est différent, Marc. Toi, tu veux juste conquérir et après tu t'emmerdes. Moi, à chaque fois que Cathy est à côté de moi, je suis heureux.
Mais si tu es heureux, pourquoi tu veux l'épouser?
Écoute, quand je serai avec elle, je la présenterai, je dirai Cathy, ma femme, et elle pourra dire voici Pierre, mon mari.
C'est quoi cette envie de pronom personnel? Ma femme, mon mari, mon chien.
Chut. Pourquoi tu t'énerves? Je te dis que je suis heureux et toi tu m'engueules.
Non mais en tant que témoin, il était de mon devoir de t'avertir d'une chose, Pierre, l'amour diminue avec le temps. C'est...
Alors Marc, en tant qu'ami, il est de mon devoir de te dire que l'amour grandit avec le temps.
Mais non.
Si, attends. Tiens.
L'amour ne s'altère pas en heure ou en semaine, mais survit jusqu'à la pointe de la fin des temps. Et si ceci est faux et qu'on me le prouve, je n'ai jamais écrit et personne n'a jamais aimé. C'est qui le con qui a écrit ça?
William Shakespeare.
Voilà, c'est Shakespeare et nous, nous parlons des lois de la physique de l'amour. On pourrait presque dire les choses comme ça avec ce livre, Les 12 lois universelles du bonheur amoureux et sexuel. C'est chez Robert Laffont et vous publiez ce livre, Julie Duchemin et Pascal de Sutter. Julie Duchemin, là, on était finalement dans cette loi de l'expansion hein, que vous décrivez. Ça s'applique vraiment sur le plan affectif et sexuel. C'est-à-dire qu'il y aurait une sorte de dilatation et de déperdition quasiment des sentiments au fil du temps.
Alors, la loi de l'expansion, si je peux juste la citer...
Moi, j'ai pas envie de vous croire, en tout cas. Hein.
Notre nature est de nous expanser, y compris dans notre vie amoureuse et sexuelle. Donc, nous expanser, c'est pas négatif, c'est pas nous éloigner, c'est nous agrandir, on va dire. Et donc, je pense, sexuellement, c'est très vrai, notamment lors d'un orgasme, les personnes qui décrivent comme ça ce plaisir sexuel, il y a ce sentiment d'être plus vaste, plus grand, d'aller plutôt vers l'extérieur que vers l'intérieur. Donc, on compare effectivement cette loi à l'expansion dans l'univers, entre les planètes elles-mêmes. Dans le sentiment amoureux, ça peut aussi faire qu'il y ait une telle... à l'inverse de la fusion, finalement, eh bien, la distance qui peut se mettre entre les deux intervenants peut, à un moment donné, aussi provoquer un manque qui peut être très positif, mais qui peut aussi faire un éloignement, là, finalement, qui peut s'avérer difficile à vivre pour le couple.
Sauf que, Pascal de Sutter, on entend surtout avec cette loi de l'expansion que l'amour ne dure qu'un temps. Voilà. Il y a toujours une espèce de limite amoureuse.
C'est pas ce qu'on dit. Hein. Je pense qu'au contraire, on dit que, contrairement à cette croyance que l'amour durerait que 3 ans, ce n'est pas vrai. On l'observe d'ailleurs tous les jours parmi nos patients, parmi d'autres personnes, que ça peut durer beaucoup plus longtemps, évidemment.
Heureusement.
Et ça peut justement prendre une dimension, parfois, c'est infini en fait. C'est pour ça que c'est un petit peu absurde de vouloir dire 3 ans ou une espèce d'époque où il y aurait comme une espèce de mort programmée de l'amour. Non, pas du tout. Ça dépend des personnes et ça dépend justement d'une autre loi, de l'énergie qu'ils vont mettre dedans.
C'est quoi cette loi de l'énergie en l'occurrence?
Alors, la loi de l'énergie est une loi vraiment fondamentale parce que je pense que quand on la comprend, on ne vit plus de la même manière. C'est-à-dire que tout élément dans notre vie, d'ailleurs tout élément qui existe sur cette planète et sur les autres, fonctionne de la manière suivante. C'est que quand vous mettez de l'énergie dans quelque chose, eh bien ça grandit justement, ça prend de l'expansion. Et quand vous retirez l'énergie, ça rétrécit.
Donc concrètement, c'est quoi? C'est l'investissement qu'on peut mettre dans son couple,
hein? Exactement. C'est le carburant qu'on met dans le couple. C'est-à-dire qu'on ne peut pas espérer... C'est ça qui est fantastique, c'est que beaucoup de gens s'imaginent, ils disent « Ah, avant, on était tellement amoureux, c'était génial. » Mais avant... Il mettait beaucoup d'énergie, il pensait à s'envoyer des messages, il pensait à s'écrire des poèmes, il pensait à faire des activités ensemble, à faire des sorties. Après, il pense juste à payer les factures ou à s'occuper des enfants ou à leur carrière. Donc la réalité, c'est qu'à partir du moment où vous mettez de l'énergie dans une activité, vous mettez de l'énergie, je sais pas moi, dans le football, eh bien à un moment, vous allez aimer le foot, ça va être génial, le foot va vous rapporter beaucoup de choses sur le plan personnel, etc. Si vous ne faites plus jamais de sport, eh bien forcément, ça va plus être terrible. Et avec la sexualité, avec l'amour, c'est la même chose.
Sauf qu'on semble porter au début d'une relation par quelque chose de quasi inné, quoi. Il y a quelque chose qui nous transporte et qui est tout à fait léger. On fait pas d'effort particulier parce qu'on est intrinsèquement porté par l'amour, non, au début d'une relation.
On croit ça et ça, c'est de la pensée magique. La réalité, c'est qu'au début, on fait justement des efforts. On se dit, je vais acheter un cadeau pour un bien-aimé ou bien-aimé. On réfléchit quel cadeau. On imagine quelque chose qui sera une belle surprise. À la fin, on se dit, bon, ben voilà, zut, c'est son anniversaire, j'ai oublié, qu'est-ce que je vais acheter. Donc, effectivement.
C'est affreux le tableau que vous dépeignez.
Oui, non, mais
quand
c'est un tableau un petit peu caricatural pour que les gens prennent bien.
C'est pas toujours comme ça.
Heureusement, c'est pas toujours comme ça. Heureusement, il y a des gens qui, justement, après de nombreuses années, font des gros efforts. Mais donc, c'est une question d'énergie. Alors, quand ça ne va pas bien dans votre vie amoureuse et sexuelle, posez-vous la question.
quelle énergie j'y consacre.
Alors, quelle est la part biologique là-dedans? Parce qu'il y a une chimie, effectivement, oui, de l'amour, ou pas?
Oui, il y a une
On sécrète des choses au début d'une relation qu'on sécrète moins après,
non? Il y a une vidéo sur Arte, je pense, qui ont montré justement comment fonctionne le cerveau amoureux. C'est-à-dire qu'il est complètement drogué à la sérotonine, à la dopamine, enfin voilà, à toutes les hormones d'attachement, etc. Et donc, qui nous booste, qui nous donne justement cette sensation de ne rien, de ne pas faire d'efforts, parce qu'on reçoit, et ça, c'est un petit peu effectivement aussi quand même magique, pourquoi telle personne va provoquer tous ces effets neurologiques chez vous. En tout cas, la magie de l'amour, mais qui va, c'est pas qu'elle va, elle, s'éteindre, c'est pas qu'elle dure 3 ans, ou 5 ans, ou 7 ans, c'est qu'à un moment donné, ça s'est bien montré aussi, les hormones diminuent, comme dans tout autre phénomène scientifique. Et donc là, il faut continuer à suppléer et à envoyer au cerveau de nouveau des hormones d'attachement, des hormones de désir, de testostérone, et ça va demander moins le côté moins naturel, c'est-à-dire de faire des efforts, mais des efforts qui après nourrissent. Et d'ailleurs, souvent, même pour faire l'amour, il y a beaucoup de gens qui disent, bon, c'est finalement en le faisant, en y mettant un petit peu plus du sien, je ne parle pas des 3 premières
Allez,
années.
Forcez-vous à faire l'amour, après, c'est ça.
Ben, c'est-à-dire, en tout cas, de dire, on va déjà programmer un moment, par exemple, pour se retrouver, on va penser à un scénario, où on va y mettre cette énergie qui peut-être au début... aller de soi, il y a aussi le début, on est dans une phase de séduction. Et donc là, le but de l'opération, quand même si on se dit oh, je suis en amour, il y a quand même aussi un enjeu très 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 fort au début, c'est de vouloir que cet homme devienne notre partenaire, par exemple, ou cette femme, même si c'est partenaire d'un soir. Hein, mais l'idée de séduire n'est pas la même que l'idée de rester ensemble des années. C'est pas le même enjeu.
Christophe nous écrit sur franceinter.fr et nous dit ceci, c'est une question pour vous. Est-ce un problème si on préfère la masturbation à l'activité sexuelle avec son ou sa partenaire? C'est un cas de figure que vous rencontrez souvent en cabinet.
Alors, surtout aussi de la compagne, par exemple, si je pose l'hypothèse que c'est un homme, si la compagne va dire ben, c'est un problème pour moi qu'il préfère la masturbation à faire l'amour avec moi. Et la personne elle-même, donc l'homme, peut aussi se dire il semble que ça me pose problème. Donc oui, ça se rencontre couramment. Alors j'ai envie de répondre, en effet, si cela vous pose problème, il y a visiblement quelque chose qui n'est pas fluide. Et très probablement, parce que si on a envie d'être en couple aussi sexuellement heureux, ça ne devrait pas être le cas. Alors la masturbation est vraiment... peut être vu comme un moment de plaisir avec soi-même, et ça, il ne doit pas l'enlever. C'est important qu'il continue à pouvoir se donner du plaisir. Peut être vu aussi comme un entraînement à mieux performer ou faire l'amour ou se connaître bien pour faire l'amour avec l'autre, mais ne devrait pas être vu comme compensation. Et là, effectivement, peut-être que je pose l'hypothèse aussi qu'il a des pratiques érotiques tout seul qui sont peut-être très très fortes, très excitantes, et que ce qu'il vit au lit l'est moins. Alors là, c'est important de remettre de l'énergie avec sa partenaire, lui dire ce qu'il aimerait, etc. Et donc peut-être.
Pascal de Sutter, Julie Duchemin vient de parler de performer. On performe pas quand même dans une relation sexuelle ou dans un acte sexuel. C'est pas justement une performance quand même.
Ben, c'est vrai qu'il y a un peu une tendance à dire aujourd'hui, voilà, il ne faut surtout pas performer. On dit ça surtout aux hommes. Attention, on ne devait pas performer. Justement, il y a l'influence des films porno qui pousserait à vouloir faire ce genre d'exploits qui sont très peu réalistes dans la vie réelle. Maintenant, il ne faut pas non plus se leurrer. Il y a un minimum de compétences et de fonctionnement chez l'homme comme chez la femme. Donc, il faut performer un minimum. C'est-à-dire qu'il faut être capable au moins de mettre un petit peu d'énergie pour faire des préliminaires convenables, pour avoir une érection convenable, pour avoir une lubrification chez la femme qui fonctionne bien. Donc, il y a un minimum de fonctionnement qui doit être au rendez-vous. Et ce minimum, parfois même par dérision, j'appelle ça le minimum syndical, qu'il faut faire pour que ça fonctionne. Et là aussi, parfois, les gens s'étonnent que leur vie sexuelle est misérable, mais ils ne font pas le minimum, ils ne font pas de préliminaires, ils passent pas du temps à essayer de séduire leur partenaire. Là où c'est le lit, après le film, ils tripotent un petit peu leur compagnon ou leur compagne dans le lit, et puis ils font ça en vitesse. Et après, ils sont étonnés que ce n'est pas satisfaisant.
Allez, on retrouve nos amis sexologues belges dans un instant avec la suite de ce dossier et vos messages sur franceinter.fr.
Sometimes you better not let go. Cause I need to know when I'm down and in trouble. Jump in the water, jump in the water so far.
Voilà le groupe Petit Biscuit avec Panama et c'était Waterfall.
La tête au carré.
Julie Duchemin, Pascal de Sutter, les 12 lois universelles du bonheur amoureux et sexuel aux éditions Robert Laffont avec les questions et les témoignages des auditeurs. Il y a Isabelle qui demande si l'amour est forcément physique. Sans cette relation, l'amour disparaît-il selon vous, Pascal de Sutter ?
On peut se poser la question si une affection profonde entre un homme et une femme, c'est plutôt de l'ordre de l'amitié quand on retire la sexualité. Donc effectivement, la sexualité est une composante, peut-être pas la composante la plus importante, hein, mais c'est une des composantes d'un lien où il y a vraiment un lien amoureux entre deux sexes ou entre le même sexe en tout cas. Donc quand il y a vraiment cette dimension sexuelle, eh bien, on n'est plus juste dans l'affection, dans l'amitié, dans la tendresse, on est dans effectivement l'amour. Et donc l'amour a toujours cette connotation physique minimum.
Oui.
Maintenant, il y a des personnes qui sont tout à fait heureuses en n'ayant plus de vie sexuelle active. La vie sexuelle peut prendre différentes formes et c'est tout à fait respectable. Et si c'est un choix en pleine conscience, c'est quelque chose de tout à fait honorable.
Julie Duchemin, vous êtes d'accord ?
Je nuance un petit peu. Pour moi, c'est une autre forme d'amour. J'appelle ça quand même l'amour, que mon collègue appelle amitié, complicité. Donc pour moi, ça reste de l'amour, mais effectivement, un amour qui n'est plus amoureux, hein, parce que là, j'entends bien que la notion de désir, de sexualité va en général avec ce sentiment amoureux. Donc ça peut être une des transformations, une des émanations de ce qui a été la relation amoureuse qui devient une autre forme d'amour.
Céline nous écrit, c'est un témoignage. Nous sommes ensemble depuis 40 ans, nous avons deux enfants qui ont la trentaine, qui vivent leur vie. Nous avons connu des hauts, des bas, de belles engueulades, des vides sexuels, mais on a toujours choisi de rester ensemble, sans doute car notre amour est très fort. Ça fait naïf, mais j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Nous avons encore beaucoup de désir l'un pour l'autre. J'ai été plusieurs fois attiré par d'autres hommes, mais j'ai à chaque fois choisi de ne pas passer à l'acte, car je trouve au final moins attirant ces hommes que mon mari. Je crois qu'il faut se reséduire régulièrement, se dire ce qu'on aime chez l'autre. Ça résume votre ouvrage finalement,
ce témoignage ? C'est ça, on y lit la loi du libre arbitre, où elle a choisi son mari, alors qu'elle avait des tentations, et qui n'en a pas, je pense, le désir, c'est important, qui se nourrisse justement de ce qu'on peut voir à l'extérieur aussi. Mais elle a choisi, elle a utilisé la loi du libre arbitre, et visiblement elle a bien fait, elle n'a pas regretté, et elle a continué à séduire, donc elle a bien compris la loi de l'acquis, la loi de l'impermanence, elle a mis de l'énergie, donc je pense que vraiment, effectivement, très beau témoignage, comme quoi, évidemment, c'est possible. Ce livre ne dit absolument pas l'amour dure 3 ans, 7 ans, on l'a dit, on dit le bonheur amoureux et sexuel, ça existe, et ça existe sur le très long terme avec la même personne, si vous le choisissez, et que vous comprenez les 12 lois.
Pascal de Sutter, il y a Julien qui nous écrit également « Le sentiment de propriété de l'un sur l'autre est un tue-l'amour. L'acceptation de la liberté absolue de l'autre pousse à contrôler sa jalousie, à transformer le stress en effort. Et c'est du vécu », nous dit Julien.
Tout à fait, hein, ça rejoint également une autre loi qui est la loi de l'espace-temps. C'est que si on n'étouffe la personne, qu'on ne lui donne pas assez d'espace, qu'on veut justement et que ça soit sa propriété, qu'on veut la contrôler, notamment par la jalousie, eh bien, effectivement, c'est quelque chose qui tue l'amour, qui tue la relation justement durable, parce qu'on ne laisse pas l'espace à la personne. C'est un élément très important, l'espace-temps. Donc vraiment, il faut respecter l'espace de la personne.
Alors, de quelle façon, d'ailleurs, ça peut se concrétiser, cette notion d'espace-temps, Julie Duchemin ? Parce que ça peut passer par différentes configurations au sein d'un couple.
Oui, j'allais même dire c'est célibataire. C'est-à-dire, par exemple, il y a quand même énormément de gens qui en ce moment, peut-être cherchent à rencontrer l'âme sœur, notamment par les sites de rencontres ou les applis. Et donc, c'est déjà de bien comprendre cette loi de l'espace-temps. Qu'il y a un temps juste, si on attend trop longtemps, eh bien, on bascule dans le copain, la copine, l'amitié. Donc, on n'est pas assez clair au niveau amoureux. Si on va trop vite et qu'on est, voilà, après avoir discuté 2 minutes, je vous saute dessus, eh bien là, on n'a pas respecté non plus ce qui, humainement, fait qu'il y a ce jeu d'espace-temps. Donc ça, c'est quand on est célibataire. Ensuite, quand on se met en couple, il y a évidemment, des moments peut-être de grande fusion où l'espace doit être très très réduit parce qu'on a besoin d'être proche de l'autre. Mais là, c'est important de se dire attention, n'étouffons pas la flamme, comme dans un feu, il y a besoin d'air pour justement le faire vivre. Donc, faisons des activités l'un et l'autre séparément. Ayons encore un jardin secret, c'est une notion qui nous semble très importante. Ça ne veut pas dire qu'on titille la jalousie exprès de l'autre. Ça ne veut pas dire que dans ce jardin secret, on trompe, on ment. C'est juste que ça nous appartient. Le jardin secret, c'est aussi les fantasmes, les pensées. Tout ne doit pas être partagé. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui se trompent, qui pensent qu'il faut tout dire à l'autre. Eh bien ça, c'est pas respecter l'espace-temps non plus. La juste distance, parfois, on est deux êtres différents aussi. On a une psyché, on a des émotions. Tout ne doit pas être identique et partagé, je pense, pour vivre longtemps et amoureux ensemble.
Pascal de Sutter, il y a ce fameux « living together apart », c'est vivre ensemble mais séparément, finalement. Mm-hmm. C'est être ensemble mais ne pas habiter sous le même toit. De plus en plus de couples font ce choix-là aujourd'hui pour maintenir justement une intensité de relation.
Il faut trouver en tout cas des solutions face à la situation actuelle que les couples, dans leur formule classique du 19e ou du 20e siècle, ne fonctionnent plus. Et ça, c'est une formule. Et ça crée justement un peu d'espace. Et l'espace est bon pour le désir. D'ailleurs, ma collègue Julie Duchemin et moi-même donnons une conférence sur Internet sur le désir, comment retrouver le désir amoureux sexuel.
Ce sera le 31 janvier,
c'est ça ? 31 janvier, exactement. Ce sera possible donc de nous rejoindre pour cette conférence en direct gratuite sur Internet. Eh bien, donc, le désir a besoin d'espace pour se nourrir, besoin de manque. On ne désire pas ce qu'on possède, on désire ce qu'on ne possède pas. Et donc, si l'autre est complètement acquis, justement, il n'y a plus de désir. Et donc, vivre à part est une des solutions qu'empruntent certains couples pour justement stimuler ce désir.
Déménager, ne faites pas d'enfants. On pourrait dire quasiment les messages qu'on peut interpréter, évidemment. C'est pas ça ce que vous nous dites dans ce livre. En tout cas, écoutons ensemble l'extrait de Nymphomaniac, Lars von Trier avec Charlotte Gainsbourg, entre autres.
Je passais beaucoup de temps seule avec Marcel à cette époque. Très souvent, Jérôme était en déplacement. Et quand il revenait enfin à la maison, il passait le plus clair de ses journées à m'accuser de négliger Marcel. On n'avait jamais été aussi éloignés de toute satisfaction sexuelle, sans parler d'orgasme.
Je suis désolé. Je voudrais qu'on parle.
Oui, bien sûr.
Je t'aime. J'aime ta sauvagerie et ton désir. Je t'aime, Joe. Au moment, j'ai l'impression que je n'arrive pas à te satisfaire comme je voudrais. T'énerve pas. Ça veut pas dire qu'on va cesser toute activité sexuelle. C'est très important pour moi. C'est très important.
Voilà, Nymphomaniac. L'arrivée d'un enfant, Julie Duchemin, ça modifie aussi évidemment la relation.
Bien sûr, c'est un défi, je pense, pour la vie d'une femme d'abord et d'un couple. Et on ne nous le dit pas assez. On nous dit que c'est un défi sur plein d'autres plans, logistique, familial. Mais sur le plan amoureux et sexuel, c'est pour ça que je donne une formation d'ailleurs là-dessus, la naissance et la sexualité. Parce que là, vraiment, et encore en ce moment avec en plus toutes les procréations médicalement assistées, c'est d'autant plus un enjeu pour beaucoup de couples. Et la sexualité passe vraiment sur un autre registre. Et ça fait vraiment des drames qui parfois ressurgissent. De nouveau, là, on est un peu sur le négatif. Mais donc, comment bien le vivre en étant conscient, en discutant beaucoup, en se faisant aider? Pourquoi pas avoir un sexologue? Moi, c'est ce que je fais. Je donne quelques conseils. Et puis, voilà, les patients enceintes ou repartent. Et c'est bon, c'est parti pour 10 ans. Mais ne minimisez pas ce que ça va changer dans votre vie de femme.
Elisa nous dit « Tous vos propos sont uniquement hétérocentrés, Pascal de Sutter. » C'est une réflexion qu'on a souvent quand on reçoit des sexologues, d'ailleurs.
Je pense que c'est dommage de penser ça, parce que d'abord, rien que tout à l'heure, j'ai déjà mentionné que ça pouvait être un désir pour le même sexe ou pour un sexe différent. Mais surtout, le message que je veux passer, c'est que Je veux qu'on arrête avec cette idée qu'il y aurait comme deux camps, les hétérosexuels et les homosexuels. Ou comme si les personnes homosexuelles étaient des personnes fondamentalement différentes, avec une sexualité fondamentalement différente. Nous sommes avant tout des êtres humains qui fonctionnons finalement de la même manière. Et nous sommes tous finalement, et c'est un message fort que je veux transmettre, mais qui n'est pas nouveau, c'est des recherches qui ont été menées déjà dans les années 50 du siècle passé. Nous sommes tous plus ou moins hétéros et plus ou moins homos. Ça n'existe pas quelque part une espèce de personne qui serait 100% hétérosexuelle, pure.
Mais ça, c'est pareil, c'est quelque chose que vous voyez beaucoup dans vos cabinets, c'est-à-dire très poreuse entre les deux.
Mais bien sûr, il y a énormément de personnes hétérosexuelles qui ont eu à un certain moment des expériences homosexuelles et énormément d'homosexuels ont des expériences hétérosexuelles. Donc, les lois universelles, comme le nom l'indique, elles sont universelles pour les homosexuels aussi. Et d'ailleurs, nous avons pris des exemples dans le livre qui sont également des exemples de personnes homosexuelles. Et nous le répétions d'ailleurs que ce qui s'adressait aux couples hétérosexuels est aussi vrai pour les problèmes de désir, les problèmes de distance, les problèmes de résilience, etc. Tout ça, c'est des problèmes qui concernent autant les personnes homosexuelles que les personnes homosexuelles. Et on ne fait pas de différence. On ne veut pas séparer ces humains. On ne veut pas les mettre dans d'autres camps.
Sacha nous dit « Je suis avec mon compagnon depuis 5 ans. Depuis un an, nous n'avons plus de relations sexuelles. Ça a toujours été compliqué et tabou entre nous. Lui me disant qu'il n'aime plus ça vraiment. Je l'aime. Il n'est pas question de se séparer. Mais je me demande si la frustration ne va pas me rattraper. »
Alors après un an, ce qu'on dit nous en tout cas, c'est que ça va être difficile pour ce couple de s'en sortir tout seul. De juste organiser une soirée, de mettre des bougies, de se dire qu'il va se passer quelque chose et ça va reprendre. Le feu, vous voyez, c'est vraiment... Là, il y a des braises en fait. L'amour, effectivement, la sexualité n'est pas mort entre eux. Il va y avoir besoin de mettre du combustible et là en général quand même quand ça dure depuis plus de 6 mois on invite quand même à trouver un refuge ou j'ai envie de dire conseil chez un spécialiste qui va donner des outils, des idées, des exercices à mettre en pratique parce que de eux-mêmes, en plus souvent il y a peut-être un déséquilibre, on le sent bien ici, un des deux va probablement, alors après il faut comprendre aussi le pourquoi du comment, mais va peut-être saboter les efforts de l'autre, donc c'est bien quand même d'aller se faire aider dans un cas comme ça.
Merci beaucoup à tous les deux, donc 31 janvier, cette conférence 20h30, en ligne, voilà. C'est aah.be comme Belgique.
Voilà, hein. Pour s'inscrire donc gratuitement. Juste
on mettra
votre
en ligne sur le
merci
site de
merci beaucoup, avec
de
plaisir de vous retrouver tous en ligne ce jour-là.
Et puis en attendant ce livre, Les 12 lois universelles du bonheur amoureux et sexuel chez Robert Laffont, livre que j'offre à Fabrice Ourel qui vient de faire son entrée dans ce studio. Merci beaucoup.
Merci
à tous les deux. Merci à Théo Gomez et Léo Pringer qui étaient aujourd'hui à la technique. Demain, dans l'émission, sujet consacré au danger de la sédentarité avec en particulier le rôle des enfants. Et c'était Antoine Gomez, en l'occurrence, qui était à la technique et non pas Théo.